Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
Là où l'homme se laisse éclairer par la splendeur de la vérité, il entreprend presque naturellement le chemin de la paix. La paix n'est pas simplement une absence de conflits armés. La paix est un don céleste et une grâce divine. À tous les niveaux, elle demande l'exercice de la plus grande responsabilité, à savoir de conformer l'histoire humaine à l'ordre divin, dans la vérité, dans la justice, dans la liberté et dans l'amour. Amis auditeurs, bonjour. Cette déclaration de Benoît XVI résonne de manière particulière alors que nos dirigeants politiques parlent de guerre et de réarmement. La paix ne peut résulter que d'un retour des nations et de chacune de nos âmes vers Dieu. La guerre en Birmanie, passée régulièrement sous silence, reste pourtant une préoccupation majeure des missions étrangères de Paris. Amis auditeurs, vous êtes bien sur Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris qui vous plonge au cœur de l'Asie sur Radio Notre-Dame et RCF. Et je reçois aujourd'hui sur mon plateau Anne Montmoton, responsable Birmanie chez Enfants du Mékong. Bonjour madame.
Bonjour Joseph.
Il y a 4 ans, Anne Montmoton, le 1er février 2021, l'armée birmane mène un coup d'État contre le gouvernement démocratiquement élu Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix en 1991. Des manifestations civiles s'organisent en réponse à ce coup d'État, réprimé de plus en plus violemment. Dès juin 2021, des affrontements éclatent entre l'armée birmane et la population civile qui prend les armes et constitue un groupe de défense populaire, ce qui entraîne une guerre civile. Cette crise continue à ce jour de dévaster le pays. Le nombre de déplacés est estimé par l'ONU à 3,4 millions. Anne Montmoton, je me tourne vers vous. Quelle est la situation actuellement en Birmanie ?
La guerre civile se poursuit. Il y a des combats dans différents États, surtout les États ethniques qui sont frontaliers, donc l'État Chin, l'État Kachin, l'État Karen. Tous les jours, nos responsables locaux nous font part de bombardements. Par exemple, récemment, c'était la cathédrale de Mindat qui a été érigée, parce qu'il y a un nouveau diocèse qui vient de se créer, mais aussi dans le nord. Les affrontements sont toujours d'actualité. Et on estime que seulement 25% du territoire est contrôlé par les militaires birmans aujourd'hui.
Donc la junte militaire est opposée à l'ensemble de la population. Cette population, elle est très éclatée. La Birmanie, c'est plusieurs ethnies qui ont décidé de se rassembler précisément pour lutter contre ce coup d'État et contre cette junte militaire.
Oui, il y a un vrai enjeu en fait d'unité, d'unification entre les armées ethniques qui sont pour certaines depuis très longtemps en guerre contre le gouvernement central qui est détenu majoritairement par des Bamars, donc c'est l'ethnie majoritaire, et puis tous ces groupuscules de défense populaire qui ont émergé pour en s'opposant aux militaires birmans.
Les militaires birmans, ils n'ont que 20% du territoire, oui. Mais ils ont les villes principales, ils ont les ressources naturelles les plus importantes.
Ils contrôlent les villes. En fait, c'est le corridor entre Rangoon, qui n'est pas la capitale, mais la plus grosse ville du pays, Rangoon, Mandalay, au milieu du pays, et puis Tonji, et puis le delta de l'Irrawaddy un peu plus à l'ouest, et donc les grosses villes comme Michina. En fait, à partir du moment où quand les opposants arrivent à prendre une ville, immédiatement, il y a des bombardements aériens, parce que c'est ça qui fait la grande force aujourd'hui des militaires, c'est le fait qu'ils puissent faire ces bombardements aériens. Donc, c'est ça qui fait aujourd'hui leur force, parce que sinon, sur le terrain, ils ont perdu. Après, ils ont aussi tous les rouages administratifs.
Anne Montmoton, vous parlez de bombardements aériens. J'ai devant moi un témoignage, je cite. « Les avions survolent les villages de la nuit. » Quand ils voient des lumières, ils lâchent des bombes, ils veulent semer la terreur Il cible les écoles, les temples, les églises. Ce témoignage fait peur, ce témoignage parle véritablement de guerre meurtrière où on sent que la tension est bien évidemment très haute, mais qu'il y a certaines cibles, les écoles notamment.
Oui, les écoles, tous les lieux où il y a des rassemblements de population. Parce que ce que cherchent à faire les militaires, c'est de supprimer tous les opposants. Donc souvent, en fait, les opposants qui sont beaucoup de jeunes qui ont pris les armes sont aidés d'une manière ou d'une autre par les communautés. Donc ça, bombarder des écoles, des camps de déplacés internes, c'est une manière de faire peur à la population. Et le climat qui est le climat de la société aujourd'hui, c'est une peur. Les gens sont sur le qui-vive, ils ne savent pas ce qui va se passer. Quand les villages sont brûlés, ils doivent partir. Enfin, c'est vraiment... ils sont dans une grande précarité. Et ils n'ont pas d'avenir. Ils se sentent spoliés, en fait, de leur futur, de leur avenir. Ils disent, on a perdu notre capacité à... Enfin, ils ont perdu leur liberté et ils ont perdu leur futur. Ils disent souvent ça. On n'a pas du tout parlé non plus des conséquences économiques. Il y a à peu près 35% de la population, d'après le Programme alimentaire mondial, qui est en détresse alimentaire et en urgence, qui a besoin d'aide humanitaire, qui n'arrive pas, ou alors de manière très détournée, parce que officiellement, c'est pas un pays en guerre. Donc cette aide arrive difficilement, mais l'Église joue un grand rôle en fait dans l'acheminement de cette aide. Et puis il y a énormément aussi de difficultés parce que donc on peut pas faire passer des marchandises. Il y a des fouilles systématiques des personnes, on peut pas se déplacer. Conséquences économiques aussi, les prix ont été multipliés par 3. Le pétrole coûte très cher. Voilà, c'est un ensemble de facteurs qui font que c'est un pays qui souffre énormément aujourd'hui.
18 millions de Birmans, soit 32% de la population totale du pays, sont en détresse alimentaire. Ils ne mangent plus à leur faim, ils ont besoin d'aide humanitaire. Dans ce contexte, Enfants du Mékong intervient. Que fait concrètement Enfants du Mékong pour soulager cette faim et soulager cette pauvreté birmane ?
Donc Enfants du Mékong, c'est une association de soutien à l'éducation en Asie du Sud-Est. Donc on intervient dans 7 pays. En Birmanie, on aide déjà via le parrainage de familles. Donc elles reçoivent 22 euros, très exactement, sur place. Et ça permet de participer à l'achat de nourriture quotidienne. Pour les jeunes qui sont en foyer d'accueil, ça leur permet d'être logés, mais d'être dans un endroit où ils sont en sécurité. Et ça, les communautés religieuses qui tiennent des foyers ont énormément accueilli de jeunes depuis le début de la guerre civile pour leur permettre donc d'être en sécurité et de continuer à étudier. Et puis, Enfants du Mékong, alors, ce qu'on faisait pas, c'est de soutenir des projets d'équipement de ces foyers, des lits superposés. Aujourd'hui aussi, on aide beaucoup à l'achat de panneaux solaires et de batteries, parce que ça aussi, c'est une conséquence de la guerre. Il y a seulement 1 heure d'électricité par jour dans les villes. À Rangoon, c'est par exemple 3 heures. Mais ça veut dire que... Et puis, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez avoir l'électricité. Donc, dès que l'électricité arrive, il faut cuisiner. Parce que sinon, vous ne pourrez pas cuisiner. Je me suis un peu éloignée du sujet. Mais du coup, on essaye par des petits projets très concrets et en même temps assez ciblés, de pallier à toutes ces conséquences de la guerre. Et puis, un autre gros projet aussi qu'on soutient, c'est une indemnisation des professeurs. Parce qu'au niveau de l'éducation... Énormément de professeurs ont fait grève suite au coup d'État. Par exemple, dans l'État de Chine, à l'Ouest, c'est 75%. Donc, c'est un nombre très important. Et donc, il y a des lieux où il n'y a plus d'école. Les bâtiments sont désaffectés. Moi, j'étais à Kalemio, qui est une ville du Nord-Ouest. Il y avait, en pleine ville, le bâtiment était vide, délabré. Plus personne n'y va. Mais les communautés locales ont mis en place ce qu'on appelle des écoles informelles, des écoles de village, avec des professeurs anciennement d'État et puis des volontaires, mais donc ils ne sont pas payés.
Pourquoi est-ce que les professeurs ont décidé de boycotter les écoles et pourquoi ont-ils décidé de faire grève ?
Alors, c'était une manière de un signe de protestation au départ, puisque le mouvement de désobéissance civile a commencé avec les fonctionnaires, les médecins, les professeurs. Et après, c'est à partir du moment où vous enseignez en école publique, ça veut dire que vous cautionnez le régime des militaires. Donc beaucoup ne veulent pas, et même les enfants disent « nous, on fait grève ». On ne veut pas aller à l'école publique parce que c'est cautionner le régime. Et certaines fois dans les villages, donc le bâtiment de l'école publique n'est pas utilisé, mais 500 mètres plus loin, vous avez une école de village qui s'est organisée, mais ils ne sont pas dans les bâtiments. Enfin, parfois, il y a des aberrations, mais... Et voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle ces écoles informelles. Aujourd'hui, on aide 30 000 enfants, 1200 professeurs, et c'est le seul moyen pour ces jeunes, donc c'est essentiellement dans les zones de guerre, seul moyen d'aller à l'école et de continuer à être instruit.
Tout ça dans un contexte de guerre, de bombes, tout ça dans un contexte qui doit être compliqué, d'une fracturation de la société, parce que si les enfants décident eux-mêmes de boycotter et prennent conscience qu'ils veulent s'opposer au pouvoir politique, on imagine derrière une influence de la part des parents, ou on imagine une influence de la part des professeurs, et donc ces enfants sont pris à partie dans le conflit.
Oui, dans ces zones de guerre, ils ne vont pas à l'école gouvernementale, de toute façon, le système n'existe plus, et dans les zones contrôlées par le gouvernement, certains retournent à l'école publique parce que ils peuvent pas faire autrement. C'est vrai que les parents jouent un grand rôle, notamment pour les âgés, parce que un autre élément qui s'est ajouté l'année dernière, c'est la conscription militaire. C'est-à-dire que tous les hommes de 17 à 35 ans, les femmes 17-25, je crois, sont obligés de servir pendant 2 ans dans l'armée. Ce qui veut dire, aujourd'hui, ça veut dire être envoyé sur le front après 1 mois de formation. Donc, ça crée un mouvement de panique chez les parents. Donc, énormément de jeunes ont fui à l'étranger, dans les pays limitrophes, à peu près 2 millions de personnes. Et l'autre conséquence, c'est que ceux qui ne pouvaient pas fuir, les parents les gardent à la maison. Donc, ils ont 16, 18, 20 ans et ils sont un peu confinés. En fait, moi, j'ai vu ça à Pateigne, c'est une ville du sud-ouest, 2 foyers de garçons. Ils n'ont pas le droit de sortir, en fait, de l'enceinte où ils sont, parce qu'il y a des risques de rapt qui sont réels. S'ils se retrouvent un peu tard, enfin, à la tombée de la nuit, dans un lieu sans surveillance... Ça, c'est assez triste, d'ailleurs, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces jeunes ? Mais c'est un élément qui est vraiment important en ce moment dans le climat social de la Birmanie aussi.
Juste après la pause, on parlera de mon mouton, de votre témoignage personnel sur le terrain. On continuera sur l'accès à l'éducation qui est véritablement au cœur du conflit. On se retrouve à Mieux-Auditeur juste après ça, avec nous. Tu le sais, ô mon Dieu. venez d'écouter mon chant d'aujourd'hui, un poème de Sainte Thérèse interprété par la chorale Ad Dei Gloriam. Et je retrouve Anne Montmoton, responsable birmanie chez Enfants du Mékong. Anne Montmoton, vous étiez en train de nous raconter le contexte actuel particulièrement compliqué pour la jeunesse. Certains sont tentés par la drogue qui circule partout et que certaines ethnies n'hésitent pas à produire et à commercialiser pour financer leur armement. D'autres sont enrôlés dans l'armée, vous nous en avez parlé, les milices où les enfants soldats sont encore tolérés. Et enfin, le travail des mineurs au champ où les mariages précoces sont aussi réguliers. Et je me tourne vers vous. Est-ce que, au fond, les enfants, ce ne sont pas l'avenir de la Birmanie? Et est-ce que tout n'est finalement pas une question d'éducation? Si on voit plus loin, si on voit après ce conflit, pour que la Birmanie puisse se relever?
Ben oui, l'éducation est toujours une arme pour construire un pays, enfin pour reconstruire un pays. Et en fait, je pense que les militaires l'ont bien compris. Ils veulent détruire en fait la jeunesse, l'espoir de se projeter dans le futur, d'être formé, d'être libre. Enfin, c'est ça qui est un peu dramatique. Mais justement, les personnes avec qui on travaille, donc c'est énormément le réseau d'églises, les prêtres, les religieuses, sont édifiants parce que malgré ce temps de la guerre qui dure, parce que ça fait déjà 4 ans, donc il y a une certaine lassitude, ils sont toujours aussi déterminés. Il y a une grande solidarité aussi dans les communautés et donc ils se débrouillent. Par exemple, là, toujours à Kalemio, ils mettent en place des écoles. Ils se projettent en fait malgré eux. C'est ça qui est assez étonnant. Et puis ils sont persuadés que la cause est juste, donc elle va aboutir un jour.
Vous vous êtes rendu en Birmanie. Est-ce que c'est facile d'aller en Birmanie aujourd'hui?
Alors, je dirais oui, c'est facile parce qu'on y va en tant que touriste. Donc, les visas sont délivrés assez facilement.
Quelle expérience vous ressortez de ce voyage dans un pays en guerre?
Ben, moi, je suis toujours étonnée par l'engagement en fait des personnes que je rencontre, parce que ils sont, je vous disais, déterminés, ils veulent absolument aider, alors qu'eux-mêmes ils ont leurs familles en fait sont touchées, leurs propres familles sont touchées par ce qui se passe. Donc ils parlent beaucoup de traumatismes, mais ils sont quand même une action auprès des jeunes et ils baissent pas les bras. Donc ils font ce qu'ils ont à faire. Là, on a essayé de réunir un certain nombre de ces responsables de programme pour justement les encourager et à s'occuper des jeunes, à continuer de s'occuper des jeunes. Et c'était édifiant, en fait, de voir tout ce qu'ils mettent en place. Ça nous édifie, nous, et ça, c'est ça qui fait qu'on a envie de les soutenir aussi et de poursuivre le soutien.
Concrètement, comment font-ils ces habitants pour survivre en temps de guerre? Quelle technique, quelle chose concrète déploie-t-il?
Alors, il y a la solidarité entre les membres des communautés. Ça, on en entend parler dans les camps de déplacés. Le côté, voilà, communautaire est très important. Et puis après, il y a la débrouillardise. En fait, ils essayent, ils partagent, ils font... Si ça ne marche pas par ce chemin-là, par exemple, s'il y a un checkpoint, eh ben, ils vont prendre une route autre, même si ça doit rallonger de 2 jours le voyage. C'est des choses très concrètes comme ça. Après, il y a évidemment aussi des liens entre les personnes localement avec les milices sur place. Enfin, ils sont très pragmatiques. Donc, ils veulent continuer leur œuvre et puis... ils prennent les moyens.
Si on se projette dans l'avenir, Anne Montmoton, des élections vont être organisées en fin d'année. Quels espoirs pour ces élections? Est-ce que ça va être des élections démocratiques dans lesquelles le vrai vainqueur va pouvoir réellement diriger le pays? Ou est-ce qu'on peut craindre un nouveau coup d'État comme en 2021, où l'armée birmane, même si elle n'est pas plébiscitée, reste au pouvoir?
Alors, déjà, il y a des élections qui ont été annoncées, en effet, mais on ne sait pas si elles vont pouvoir se mettre en place, parce que ce serait sur une portion du territoire très réduit. Voilà. Donc, il y a eu cet effet d'annonce. En tout cas, ça n'intéresse pas les gens. À voir si elles se tiendront effectivement, parce que ça fait, c'est pas la première fois qu'ils en annoncent.
La dirigeante politique Aung San Suu Kyi, que j'ai évoquée dans mon introduction, prix Nobel de la paix en 1991, était celle qui avait été élue suite aux élections et qui a donc été emprisonnée par la junte militaire. Est-ce qu'on sait ce qu'elle devient dans les geôles birmanes ?
Ben, elle est toujours emprisonnée, en vie. Après, on a très peu d'informations. Puis elle a énormément de procès, de chefs d'accusation. Donc, je ne sais plus à combien d'années elle a été condamnée. Mais bon, ce n'est plus tellement une figure qui cristallise un espoir. Oui.
Est-ce que vous identifiez des motifs d'espoir précisément pour l'avenir ? Pour le relèvement du pays.
Oui. En fait, les personnes sont extrêmement touchées quand on vient les voir. C'est un évêque qui me disait déjà merci d'être encore là, parce que énormément d'associations sont parties. Après, merci de nous visiter, de venir nous voir. Ils sont sensibles à ça, qu'on les écoute, qu'on comprenne en fait ce qu'ils vivent. Et puis merci d'être à nos côtés, de nous soutenir. Et c'est vrai que pour les auditeurs, c'est important de pouvoir prier pour les Birmans, pour la paix. Ça, ils sont très sensibles à ça et ils savent que ça apporte des fruits. Et je dirais qu'en fait, c'est leur foi, en tout cas dans le réseau que je côtoie, qui est un motif d'espérance. C'est que, voilà, ils ne savent pas en fait ce qu'ils vivent et pourquoi ils traversent tout ça, mais... Ils ont foi en Dieu et c'est ça qui les fait tenir aussi.
Une grande partie de la population est catholique ?
Non, c'est moins de 10%. Mais nous, on passe beaucoup par le réseau d'église, donc forcément, c'est les personnes dont j'entends parler.
Et si on revient à Enfants du Mékong, si nos auditeurs désirent soutenir l'action qu'Enfants du Mékong réalise auprès de ces pauvres de Birmanie, comment peuvent-ils faire pour aider la Birmanie à travers Enfants du Mékong ?
Alors, il est possible d'aider des jeunes, de parrainer des jeunes. On a à peu près 300 jeunes qui attendent un parrainage. On peut faire un don, parce que je parlais des projets d'équipement, des écoles informelles, enfin de soutenir les professeurs. Donc ils peuvent très bien aller voir le site www.enfantsdumekong avec un S, enfant.com. Voilà, il y a beaucoup de besoins qui sont mis en ligne.
Merci beaucoup Anne Montmoton, responsable Birmanie chez Enfants du Mékong, d'avoir répondu à mes questions. Amis auditeurs, n'hésitez pas à relayer largement ce podcast autour de vous. Merci pour votre fidélité, merci d'être toujours là. Les missions étrangères de Paris sont sensibles à la cause birmane et des prêtres sont encore sur le terrain pour répondre aux besoins spirituels des habitants. N'hésitons pas, comme Anne Montmoton nous l'a invité, à prier pour la Birmanie. Je vous souhaite une excellente semaine, amis auditeurs. Que la paix soit avec vous.